Bonjour et bienvenue pour ce podcast. Nous allons parler encore d'intelligence émotionnelle, mais cette fois-ci à travers un outil qui s'appelle le QE Pro avec Lisa. Donc bienvenue à ceux qui écoutent ce podcast pour la première fois. Bienvenue à ceux qui écoutent ce podcast toutes les semaines. Je suis Johanna Kellen, votre hôte. Je fais ce podcast d'une petite ville s'appelant Port-Louis qui est sur la côte sud de la Bretagne. Et j'ai créé un jeu qui s'appelle le Talentoscope et qui sert à identifier nos modes opératoires en coopération pour des grands groupes de, en général, plus de 100 personnes sur une période de 2 heures. Je n'ai plus de site internet, donc si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Je suis devenue artisan, c'est à l'ancienne, il faut appeler la boutique. Je vous souhaite une bonne écoute, retrouvons tout de suite Lisa. Bonjour Lisa.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Alors nous allons parler d'un outil qui s'appelle le QE Pro. Ça fait longtemps que sur ce podcast on n'est pas allé explorer un outil. J'aime bien ce côté un peu mécanique où on va aller regarder concrètement comment on fait. Et en plus ça va toucher un sujet qui a été abordé plusieurs fois sur ce podcast qui est l'intelligence émotionnelle. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire quel a été votre parcours ?
Volontiers. Alors moi, je suis psychologue à l'origine et j'ai eu ma passion sur l'émotion et l'intelligence émotionnelle dès l'adolescence parce que c'est Daniel Goleman, mon point de départ en 95. Je suis tombée dedans. Et puis, j'ai fait les études de psychologie, j'ai fait mon doctorat sur l'intelligence émotionnelle et notamment sur comment on mesure l'intelligence émotionnelle pour ensuite devenir praticien dans les organisations avec cette lecture des émotions parce que j'ai rejoint un cabinet où j'ai travaillé sur le stress, le bien-être au travail pour me mettre à mon propre compte en 2012. J'ai créé Qualia Conseil pour promouvoir vraiment l'approche de la prise en compte intelligente des émotions. Je garde toujours une double casquette parce que je suis aussi chercheuse. Aujourd'hui, je suis rattachée à l'EM Lyon, l'école de management de Lyon, où je travaille avec mon collègue Christophe Hague, notamment dans la création de l'outil QE Pro et aussi du coup sur des parcours d'intelligence émotionnelle et la formation des coachs, des psychologues et toute personne qui accompagne des managers et dirigeants à l'intelligence émotionnelle.
Donc, le QE Pro, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le QE Pro, c'est la mesure métrique de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, on a l'intelligence émotionnelle et nous, on cherche à mesurer quel est le degré de compétence de la personne. Alors, le QE Pro est un outil qui fonctionne en profilage. Donc, on n'est pas sur un score global, on peut le calculer. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir aller sur chacune des sous-compétences. Alors, de quelles compétences on parle ? Nous, l'intelligence émotionnelle telle qu'on le conçoit, c'est deux pôles de compétences. Tout d'abord, la compétence de faire un check-up émotionnel, c'est faire un diagnostic émotionnel précis et différencié. Ça veut dire différencier entre des émotions. Est-ce que je suis plutôt en colère, en peur, en tristesse, en joie, en fierté ? Voilà, d'être très précis dans ce diagnostic. Et une fois on a les diagnostics, on bascule en mode tactique émotionnelle. Donc là, il y a 4 capacités émotionnelles. Et donc, je vais décoder l'intensité de l'émotion, faire des prédictions sur l'évolution des émotions, anticiper les conséquences des émotions, parce que chaque émotion peut avoir des vertus ou des risques. Et du coup, il y a une étape aussi qui est vraiment propre à notre modèle, c'est à un moment, on va fixer un objectif émotionnel. Alors, c'est quoi ? C'est dans une situation donnée, on va se poser la question, tiens, quel serait le meilleur mélange émotionnel adapté ? Et donc là, du coup, je me fixe un objectif émotionnel que je vais mettre au service d'un objectif opérationnel. Et ce n'est qu'ensuite, en fait, je vais mettre en place des stratégies de régulation. C'est pour ça qu'on a appelé cette deuxième pôle de compétences vraiment tactique, parce que du coup, on a évidemment les émotions au service du bien-être, mais aussi vraiment au service de la performance.
C'est étonnant quand même d'entendre parler des émotions avec le terme de degré de compétence. Ramener les émotions à une compétence, c'est étrange, non ?
Alors, ce n'est pas les émotions qu'on ramène à la compétence, c'est la manière comment on les apprivoise. Et donc, c'est ça un peu, hein. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle. C'est l'intelligence, c'est la mise en œuvre intégrée d'habiletés, de compétences et d'aptitudes. Donc, du coup, on a cette dimension-là, hein. C'est au service de l'adaptation et on n'est pas tous égaux dans notre manière d'appréhender le monde des émotions. Donc, on parle ici bien de compétences. Pour vous donner un exemple, vous allez avoir peut-être une personne qui a, je ne sais pas, une personne, on va avoir une promotion et la personne va dire ah oui, c'est des bonnes émotions que je vis. Voilà. Parfois, on va dire voilà, ça va, c'est bien. Voilà. Et il y a une autre personne qui va être là, elle va dire alors moi, je vis de la fierté parce que c'est un accomplissement pour moi, c'est vraiment une réussite, une atteinte d'objectif. Et puis, waouh, ça, je me sens vraiment valorisée là-dedans. Et puis, j'ai peut-être aussi un peu d'inquiétude parce que waouh, c'est quand même un challenge. Et là, vous voyez, il y a deux niveaux de compétences très différents dans la manière de décoder son vécu. Il y a quelque chose dans la précision qui est différent, dans le nombre d'émotions détectées, dans le décodage, est-ce qu'on parle des déclencheurs, donc des sources des émotions. Qu'est-ce que ça fait de nous? Et donc, du coup, il y a vraiment des degrés, j'ai envie de dire, de compétences différentes. Alors, nous, dans notre test, on a 5 niveaux de compétences. On a vraiment ceux qui sont dans... Ce que nous, on dit, c'est le questionnement nécessaire parce que pour eux, l'émotion, c'est plutôt voilà, un parasite. L'émotion, c'est un truc qui leur tombe dessus. Voilà, on va avoir des personnes qui nous disent « Non, mais l'émotion, pour moi, c'est comme une éruption volcanique. Ça arrive et bam, et je sais pas quoi trop en faire. » Et après, on a des personnes qui vont nous dire aussi, quand on arrive après, ça c'est vraiment le questionnement nécessaire, après on arrive prêt au développement dans la moyenne, et là c'est plus des personnes déjà qui, l'émotion ça leur parle, ils voient bien que ça a une utilité et que bah, il faut faire avec, et parfois c'est même aidant, mais voilà, c'est cette mécanique-là, c'est parfois, mais pas systématique, voilà. Et du coup, on a après des profils compétents, experts, et là, ils sont dans une aisance à décoder le monde des émotions, à vivre plusieurs émotions en même temps, à pouvoir volontairement activer des émotions selon les situations, voire parfois bah, à les atténuer. Donc là, on arrive sur des profils, voilà, avec beaucoup plus de flexibilité, d'acuité, de finesse. Hein. Voilà. Donc nous, on a vraiment caractérisé 5 niveaux de compétences en référence aussi aux échelles d'intelligence classiques.
Et alors, en quoi c'est utile de connaître et de, en tout cas, de repérer les émotions chez soi? Et en quoi on peut les utiliser?
Alors, il y a première chose, en quoi c'est utile de les repérer? C'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, si vous ne repérez pas votre émotion, vous n'êtes pas conscient que votre émotion va colorer votre manière d'interagir avec le monde. Donc du coup, si par exemple, nous on a notre podcast, et si je ne suis pas conscient par exemple hein, que voilà, j'étais très joyeux parce que voilà, j'ai eu ma voiture ce matin, bah, en fait, je vais peut-être manquer de vigilance. Parce que le risque de la joie, c'est être un peu sur un nuage, vous voyez? Donc maintenant, entre nous, c'est un peu moins grave que si je dois avoir une négociation, par exemple, si vous êtes sur votre nuage de joie où vous devez prendre des décisions, ben, en fait, si vous n'en êtes pas conscient, votre décision va être colorée par cette joie qui n'appartient ni à la chose sur laquelle vous décidez, qui appartient peut-être à un autre événement et qui va vous faire prendre des risques importants. C'est ça le propre de la joie. Donc du coup, si je suis pas consciente de ma météo, voilà, je peux pas l'évaluer si elle est en cohérence ou adaptée à la situation.
Alors, donc c'est pour avoir plus d'objectivité.
Je sais pas si c'est objectivité ou plus d'alliance avec ses émotions. Vous voyez, parce que je sais pas si l'objectivité.
Bah là, dans le cas, en plus, c'est très intéressant que vous preniez un exemple sur la joie, parce que souvent, on prend des exemples d'émotions qu'on dit négatives. Donc, oui. Je trouve vraiment, vraiment intéressant le fait de prendre la joie. Plus d'objectivité dans le sens où, parce que je suis joyeuse, quand je rentre dans une situation qui est nouvelle ou qui n'a pas de rapport avec la joie que je ressens, il faut que j'ai conscience de cette joie pour ne pas en subir les biais qui seraient d'être un peu trop léger sur des questions qui mériteraient d'être plus grave.
Tout à fait. Mais du coup, en fait, moi, ce que j'irais faire, par exemple, ou ce qu'on travaille du coup en accompagnement, c'est dans ces moments-là, il y a une émotion qui peut être une vraie ressource pour nous parce qu'elle va nous remettre de la vigilance. Alors, c'est souvent l'émotion d'une inquiétude, voilà, c'est l'inquiétude modérée, l'angoisse modérée, qui vont être un très bon équilibrateur, de la joie, un modérateur de la joie. Du coup, je ne sais pas si c'est objectif, vous voyez, parce que je
Oui,
ferais
je
plus
comprends.
appel du coup d'une émotion modératrice pour avoir un mélange plus adapté, parce que la peur, elle va vers la prise de risque modérée. Voilà.
Et donc, dans cet exemple avec la joie, et vous l'avez tout à l'heure mentionné, on peut activer une autre émotion pour réguler, par exemple, on prend cet exemple particulier, mais pour réguler cette joie.
Exactement, c'est en fait ça la notion d'objectif émotionnel. En fait, c'est que là, on va avoir une situation où je dois être vigilante, mais je suis très joyeuse, qui risque de brouiller ma vigilance. Donc, je peux avoir deux objectifs émotionnels. Premièrement, baisser l'intensité de ma joie, parce qu'elle est quand même adaptée, parce qu'elle va créer du lien, et dans la situation, c'est adapté, mais à une plus faible intensité. Et je peux aller chercher une émotion ressource, en l'occurrence l'inquiétude, l'angoisse modérée, pour ses vertus de vigilance. Et en fait, du coup, je suis beaucoup plus équilibrée, parce qu'on part du principe que l'émotion est adaptation, donc si je suis mono-émotion, je suis assez réduite dans mon adaptation. Si je suis à deux, trois, voire quatre émotions, bah, tout d'un coup, je suis beaucoup plus équilibrée.
D'accord. Si je reviens au diagnostic,
Oui.
donc vous parlez d'un check-up émotionnel, comment vous faites ce check-up émotionnel?
Alors, il y a différents indices pour faire un check-up émotionnel. Nous, on travaille avec deux pôles de trois sous-capacités, donc cinq indices et la lecture des déclencheurs. Alors, quels sont les indices émotionnels? On a tout ce qui est évidemment expression faciale, posturale, tonalité de la voix, donc le débit, la hauteur, etc.
Chez nous-mêmes ou chez l'autre là?
C'est les deux. On peut le lire tant chez l'autre que chez nous-mêmes.
Donc en
Parfait.
observant nos propres gestes, notre propre intonation de voix.
Oui. Par exemple, vous pouvez parfois observer juste que vous vous redressez ou tout d'un coup, dans l'échange, vous voyez. Que vous avancez vers l'autre. Vous voyez, parfois on se penche vers l'autre. C'est souvent une posture d'intérêt qui est en train de s'installer. Et donc aussi nos propres postures peuvent nous renseigner. Ou dans un entretien, tout d'un coup on a un mouvement de recul, les bras qui se croisent. Et là on est typiquement dans nos propres gestes et postures qu'on observe autant qu'on peut les observer chez l'autre.
Donc vous avez cette partie d'observation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le check-up émotionnel?
Alors, il y a d'autres indices, donc ça, c'est les expressions. Après, j'ai les comportements, parce que chaque émotion se manifeste via des comportements. Alors, par exemple, les comportements de la joie, ça va être l'exubérance, le partage, d'aller vers les autres. Alors que les comportements autour de la peur, par exemple, ça va être tout ce qui est mise en protection, des comportements de sécurisation, d'évitement, de fuite parfois. Donc, on a l'aspect comportemental qui est un autre indicateur. D'ailleurs, en entreprise, très intéressant parce que parfois, on cherche à neutraliser ce qui se passe sur notre visage. Et donc, du coup, le comportement peut être un indice beaucoup plus fiable. Après, nous avons un autre indicateur, c'est notre dialogue intérieur qu'on peut, chez l'autre, lire dans le contenu de la parole. Alors, on a ici, c'est par exemple quelqu'un qui a peur, il va parler autour d'une perte de contrôle, il va dire qu'il ne voit plus les priorités, qu'il ne comprend pas, de l'incertitude. Donc il va nous parler de ça. Notre dialogue intérieur, il va également tourner autour de ça. Donc on a un vrai indicateur qui est autour de notre langage, notre dialogue intérieur. Et puis, il y a évidemment le corps. Tout ce qui est manifestation dans notre corps qui est un indicateur émotionnel. Alors, première chose, il faut déjà différencier ce qui est manifestation corporelle due à autre chose et manifestation due à de l'émotion. Et après, les émotions de base, en tous les cas, ont des manifestations émotionnelles corporelles très différentes. Nous, on parle aujourd'hui de patterns assez spécifiques. Pour la peur, pour la joie, colère, ça va être vraiment des manifestations corporelles différentes. Après, il y a un autre dernier indice, c'est notre expérience subjective de l'émotion. Voilà, c'est notre partie vraiment intime, unique de vivre l'émotion en question.
Qu'est-ce
Donc
que
ça,
ça veut dire
moi...
ça concrètement dans la vie?
Alors, concrètement, je vais prendre l'exemple de la colère. Pour la colère, par exemple, il y a des personnes qui vont dire, je ressens un bouillonnement, une fureur à l'intérieur de moi. Ça vous parle?
Un bouillonnement, une fureur?
Ouais, pour la colère.
Oui.
Voilà. Alors, d'autres personnes, ça va pas leur parler. Ils vont dire, bah, moi, en fait, c'est plutôt glacial.
Ah oui.
Ouais. Et donc, c'est notre manière très intime à traduire l'émotion. C'est en fait, une fois que tous les autres signaux ont émergé à la conscience, c'est voilà, je vais connecter ça à mon expérience subjective. Et
Donc ça,
donc,
faut apprendre à noter comment on vit les émotions.
ah oui. Nous, dans l'accompagnement, ça c'est vraiment la première étape, c'est on vous invite vraiment à observer votre vécu de l'émotion.
Et aujourd'hui, il y a une typographie de comment on vit chaque émotion, ou bien c'est vraiment illimité?
Alors, il y a une topographie qui après va se traduire de manière très spécifique. Je ne sais pas si c'est... voilà, il y a un niveau très général, par exemple, la joie, ça va généralement aller sur des comportements d'exubérance, d'aller vers les autres, tout ça. Mais après, chez les uns et les autres, ça va être leur manière de faire. Voilà. C'est aussi... la fierté, par exemple, il y a des personnes qui vont vraiment célébrer, de le partager avec le monde entier, alors que d'autres vont peut-être l'exprimer de manière plus introvertie. Voilà. Donc là, on a des variations, mais on a quand même des grandes catégories de manifestations, j'ai envie de dire. Après, il y a encore une autre famille d'indices qui manque. Alors ça, c'est les manifestations. Et maintenant aussi, ce qui nous renseigne sur quelle émotion, à quelle émotion on a affaire, c'est notamment les déclencheurs, les sources des émotions. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes catégories. Mais dans ces grandes catégories, ça va être chaque fois spécifique à la personne.
Oui, parce qu'on voit bien des situations où une personne va s'énerver et pas du tout l'autre parce qu'ils l'ont pas du tout, ça n'a pas du tout déclenché les mêmes émotions chez eux.
Exactement. Et donc, en fait, il y a différents niveaux de déclencheurs. Il y a le premier niveau qui est, par exemple, la colère, l'énervement. Généralement, ce qui déclenche, ça va être autour de l'injustice, du irrespect des valeurs, etc. Mais ce qui fait injustice pour les uns n'est pas forcément ce qui fait injustice pour les autres. Et donc interviennent ici tout ce qui est autour des croyances, des valeurs, qui vont modifier notre perception de la situation, des déclencheurs de l'émotion.
Donc en fait, de connaître ses valeurs, par exemple, quand on est enclenché dans la colère, on peut plus facilement le relier à bah, c'est normal que j'ai cette émotion puisque là, il y a un de mes déclencheurs.
Oui, parce que quand on s'observe régulièrement, on va savoir exactement qu'est-ce qui nous déclenche. Moi, par exemple, il y a une valeur, j'ai beaucoup de mal avec des gens, par exemple, qui retiennent des informations ou des choses comme ça. Et je sais que ça, c'est très contre mes valeurs et ça va venir m'irriter. Quand on travaille ensemble, j'ai besoin de travailler en harmonie et c'est mis en mal quand j'ai parfois des personnes qui vont pas... Comment vous dites en français, c'est mettre toutes les cartes sur la table, c'est ça?
Ouais.
Voilà. Et je sais que ça va venir me chercher dans la colère. Voilà.
Ouais,
Mais
faut
c'est
bien
parce que c'est
comprendre.
cette valeur-là qui est touchée. Mais après, il y a des personnes où ils voient ça dans le monde du travail, c'est normal de fonctionner comme ça. Donc ça ne va pas les déclencher.
Et dans le QO Pro, il n'y a pas de test comme on peut trouver dans des méthodes de profilage ou... Vous avez des questionnaires ou des manières d'évaluer autres?
Alors nous, avec le QE Pro, il existe d'autres questionnaires. Alors, notre particularité, et je trouve c'est notre force, c'est qu'en fait, nous, dans notre test, vous avez des bonnes et des mauvaises réponses. Donc ce n'est pas comment moi je me perçois. Parce que si je vous demande si vous êtes ouvert aux émotions, aujourd'hui dans notre société, c'est tellement valorisé de devoir être ouvert aux émotions que de toute façon, 80% des gens vont cocher oui. Et après, il y a ceux qui ce sont des gens qui se sous-évaluent chroniquement parce qu'ils sont très humbles. Et en fait, ils vont cocher, bon, non, pas vraiment. Alors que peut-être ils le sentent. Donc, du coup, on ne voit pas très bien leur niveau de compétence. Donc, nous, notre test, ça vous donne un profil sur vous savez pas, vous maîtrisez ou pas. Et à partir de là, nous, on a un entretien de 1 heure et demie où on contextualise vraiment votre rapport à votre situation. Vous voyez, là, on parlait des déclencheurs généraux, injustice pour la colère. Ben, nous, ce qu'on va chercher, c'est est-ce que vous connaissez les niveaux généraux? Est-ce que vous connaissez aussi les niveaux spécifiques? Est-ce qu'il y a des émotions sur lesquelles vous êtes à l'aise, voire des émotions sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise? Ou peut-être vous savez faire dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Et donc, on va aller chercher vraiment à contextualiser. Et à la fin, la personne sort avec un plan de développement sur les 7 capacités.
Mais ça veut dire quoi au niveau des questions, qu'elles soient bonnes ou fausses? Vous avez des exemples? Je ne veux pas trahir le test, mais quel type de questions?
Je vais vous faire une question qui suit. Je veux dire, je stoppe la montée de l'adrénaline et permet la récupération après, face au stress. Qui suis-je? Et nous, on va vous proposer quelques émotions. Tac, 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 tac. Et donc, là, vous pouvez répondre. Voilà. Donc là, c'est typiquement une question qui teste votre compétence à évaluer les conséquences des différentes émotions, ce qui est une étape clé pour définir votre objectif émotionnel par la suite. Parce que si vous savez quelle est l'émotion qui stoppe la montée du stress et de l'adrénaline, bah, quand vous avez un temps de stress, bah, vous savez que cette émotion-là, il faut absolument savoir vous l'activer.
Et comment on active une émotion ?
Ah, si vous voulez, on peut faire un exercice.
Ah, allons-y.
Alors, je vous propose, vous vous redressez sur votre chaise ou fauteuil. Voilà, vous vous redressez bien. Voilà. Vous vous redressez le dos droit et vous levez la tête un peu le montant vers le ciel. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va chercher comme émotion? Ou quelles sont les pensées qui peuvent venir si vous vous mettez dans cette posture?
Faut-il encore que je sache exactement ce qu'est une émotion, mais bizarrement, l'espoir.
Bah oui, parce que vous regardez de loin, hein, et vous vous levez, vous êtes dans une posture d'aller vers. Et donc, vous voyez, ça peut être via une simple prise de posture. Alors, c'est par exemple quand vous vous levez du mauvais pied, c'est le jour où il faut absolument vous redresser et vous mettez dans des gestes d'ouverture, regarder de loin et vers le haut. Donc, en fait, il y a plein de manières d'induire une émotion. C'est, on peut se rappeler un événement, on peut s'engager dans des situations pour activer une émotion. Moi, par exemple, dans la journée, je me programme des moments où je fais des choses que j'aime. Après, j'ai le loisir d'être indépendante, mais voilà, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Après, qu'est-ce que j'ai... Donc, vous pouvez travailler sur la situation pour vous activer des émotions, sur votre attention, sur quoi vous portez votre attention. Par exemple, si vous vous imaginez, je ne sais pas, vos derniers lieux de vacances qui se sont très bien passés, peut-être au bord de la mer, voilà. Ça va vous rappeler, vous activer des émotions. Votre manière d'interpréter le monde aussi. Parfois, on se dit, mais ça ne va jamais le faire. Et puis, si vous changez de manière d'interpréter en vous disant, si j'ai les ressources, attends, ça ne va peut-être pas être facile, mais j'ai les ressources, j'ai mes collègues, j'ai peut-être des amis, j'ai aussi des capacités d'organisation vraiment élevées dans des situations où ce n'est pas évident. Je me connecte à mes ressources. Déjà, vous allez vous activer des émotions beaucoup plus à haut contrôle. Vous voyez, et vous modifiez votre climat émotionnel. Et puis, il y a encore sur toute la partie manifestation. Donc, en prenant une posture, je peux m'activer l'émotion. Aussi, en agissant sur mon corps, hein, par la respiration, etc., toutes les techniques de sophrologie. Et puis, par des comportements. Donc, on a aussi cette partie-là sur les manifestations.
Donc ça fait partie des tactiques. Vous avez dit que c'était en deux...
En tactique, oui.
Il y a le diagnostic et puis il y a la tactique. Ce dont on parle, là, c'est de la tactique. Mettre ça, en place des nouveaux comportements, des gestes, ouais. de la relaxation.
Tout à fait. Et c'est la partie tactique, stratégie de régulation. Parce qu'avant, il y a toute la partie « je fixe des objectifs de régulation ». Parce que sinon, mes tactiques, mes stratégies, si je ne les mets pas au service d'un objectif, ben, je ne pourrais pas voir s'ils sont efficaces et si je dois peut-être les ajuster. Donc, évidemment, ces stratégies et ces familles de stratégies sont au service des objectifs.
Cet objectif, comment on le détermine? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur? Est-ce qu'on a toute la visibilité? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de biais qui font qu'on arrive à voir quel est notre objectif? Parce qu'on est aussi, on peut être aussi pris par nos propres émotions qui nous rendent parfois aveugles.
Alors oui, et c'est notamment souvent parce qu'elles sont soit mal décodées ou soit parce qu'elles sont trop intenses. Parce qu'on est vraiment aussi là-dessus, c'est que si l'émotion, plus l'émotion est intense, plus je perds mon discernement. Et donc, il y a aussi ce côté-là où, à des moments, avant vraiment d'aller chercher autre chose, le premier objectif peut être de descendre l'intensité émotionnelle. Parce que c'est un peu comme une autoroute, vous voyez? L'émotion, c'est si vous êtes à 180 sur l'autoroute, prendre la sortie, ça va être très compliqué. Alors que si vous êtes, je ne sais pas, déjà avant la sortie, on va descendre, on va être à 50, ça va être très aisé. Avec l'émotion, c'est pareil. Si vous êtes en colère, je ne sais pas, de 6 sur 7, par exemple, et vous voulez sortir pour aller vers l'intérêt, la curiosité, pour comprendre pourquoi l'autre a agi tel qu'il a agi, pour chercher ensemble des solutions constructives, bah, si vous êtes à 6 sur 7 de colère, ça va être compliqué de prendre la sortie vers l'intérêt. Et donc, du coup, il faut déjà baisser l'intensité et ensuite aller chercher, vous connecter à cette autre émotion qui est l'intérêt. Et donc là, on a fixé l'objectif émotionnel qui est au service de l'objectif maintenir la relation, clarifier la situation. Okay. Et donc, après, il me suffit, entre guillemets, d'activer les stratégies pour y parvenir. Nous, dans notre pratique, on voit quasiment que le plus compliqué pour les personnes et ceux dont ils sont le moins conscients, c'est cette étape des objectifs.
Parce que ce n'est pas toujours facile à déterminer non plus, non?
Tout à fait.
Est-ce que là, par exemple, cette situation, la colère, est-ce qu'il y aurait pu avoir un autre objectif dans cette, par exemple, il a été énervé par quelqu'un. Est-ce qu'il y a un autre objectif que l'intérêt, la curiosité qui soit possible?
Alors, tout dépend de votre objectif opérationnel. Si votre objectif opérationnel, c'est de casser la relation, allez-y, vous voyez?
Ah, on peut avoir, oui. Oui.
Ben oui, si je travaille avec quelqu'un et ça m'agace depuis des semaines et j'ai juste envie de casser la relation, ben, pourquoi pas exprimer la colère de 5-6 sans aller sur des émotions plaisantes qui créent du lien?
Donc là, on reconnaît que l'objectif, par exemple, c'est de casser la relation et on ne jugule pas la colère et on ne fait pas rentrer l'intérêt, la curiosité. On laisse ce cocktail pur comme un whisky, quoi.
Comme un, oui. C'est pour ça que ça dépend beaucoup de votre objectif et opérationnel aussi. Hein. Après, ce qu'on peut aussi dans la colère, ça dépend vraiment des objectifs que vous vous fixez. Sachant aussi que la colère, 30 secondes de colère, c'est 30 minutes de récupération. Et moi, je connais très peu de gens qui sont en colère uniquement 30 secondes. Généralement, c'est quand même plusieurs minutes. Donc, il y a aussi un objectif qui est de santé, de ne pas rester en colère trop longtemps. Et donc, du coup, là aussi, c'est la question comment j'écourte la colère pour aller sur des étapes émotionnelles plus reposantes pour mon corps.
J'aimerais venir sur la forme des formations que vous faites, parce que quand j'entends la complexité que ça peut être, j'ai l'impression que ce chemin qu'on fait pour comprendre nos émotions, pour savoir vivre avec et bien avec, c'est l'histoire d'une vie presque, en tout cas moi c'est ma sensation. Comment on fait rentrer dans une... Déjà, combien de temps dure la formation et est-ce qu'en en sortant, on a une clé de lecture claire de comment utiliser. Est-ce qu'on est tout de suite autonome, quoi? Est-ce qu'on est tout de suite... C'est un peu long, c'est pas très clair, mais je sais pas si vous arrivez à répondre à ça.
Alors, nous, ce qu'on fait dans les formations, on veille à faire passer le QE Pro en amont, parce que du coup, on a 1h30 d'entretien individuel et la personne, elle a déjà ses pistes. Et donc, du coup, après, quand elle vient en formation, elle a une lecture très différente de la formation, parce qu'il y a des exercices qui vont être vraiment pour elle et d'autres, peut-être, qui vont moins lui parler parce qu'elle maîtrise déjà. Donc, du coup, on essaye vraiment d'avoir ça. Après, Moi, je fais des sensibilisations. Là, on fait une journée et on prend conscience de cette notion d'objectif et on retient quelques bonnes pratiques. Après, le programme le plus complet, c'est donc l'entretien démarrage, 2 jours plus une journée à distance. Et après, ce que je propose aussi, 10 séances de coaching. Et là, on fait vraiment déjà du bon travail.
Et vous le faites avec des étudiants, ça?
Alors on commence, on le fait avec des étudiants, voilà, où on a 8 demi-journées. On est en train de mettre en place des ateliers pour étudiants où ils vont venir en volontaire. Voilà, moi j'ai un cours vraiment, et puis on va créer aussi des ateliers volontaires pour étudiants. Voilà, et après la majorité, c'est quand même beaucoup les entreprises, parce qu'avec le contexte aujourd'hui du mal-être, du bien-être, chercher vers le bien-être, mais aussi c'est aller vers d'autres moyens de performance. Parce qu'on a vu, on cherche à optimiser les organisations, etc. Mais en fait, on se rend bien compte que le facteur humain, là-dedans, on peut avoir la meilleure organisation, mais si on n'arrive pas à s'entendre, si on n'arrive pas à être enthousiaste, bah, du coup, les meilleures organisations vont pas fonctionner. C'est notamment l'exemple des pompiers et des militaires. Ils ont des moyens souvent extrêmement pauvres et en même temps, c'est des corps de métier les plus engagés.
Quel est le plus gros frein à rentrer dans ce travail? Est-ce que vous avez rencontré des gens dans vos formations qui étaient complètement bloqués sur tout ça? Et quels arguments ils mettent en avant pour dire que non, non, ça ne leur correspond pas?
Alors, il y a parfois des gens bloqués parce que l'émotion n'a pas son lieu en entreprise. Voilà. Il y a des personnes, je me rappelle une de mes premières interventions et c'était quelqu'un qui disait, mais c'est quoi cette histoire de s'occuper des vapeurs des vieilles dames? Voilà. Donc, c'était vraiment, voilà, c'est quoi cette histoire-là? Et donc aujourd'hui, ça change quand même un petit peu. Mais après, il y a des personnes qui sont réfractaires parce que pour eux, voilà, on touche à l'intime. Et du coup, c'est effectivement aussi le tort qui a été fait par certains praticiens, j'ai envie de dire, qui sont peut-être pas des plus rigoureux et sérieux, où on a crié sa colère dans des coussins, etc. Je dis pas que c'est pas des méthodes, voilà, pourquoi pas. Mais je pense en entreprise, on avait vraiment besoin de poser cette approche-là sur des bases scientifiques. Et nous, c'est ce qu'on a cherché à faire avec mon collègue, c'est chaque question dans notre questionnaire a une référence de la littérature avec une étude expérimentale qui dit que c'est ça la bonne réponse. Nous, on y va avec des études parce qu'il y a l'impact sur le leadership, on le trouve là, là, là. Et donc, du coup, les personnes en rentrent plus par la tête et on dit, on ne va pas fouiller votre intime. Si vous voulez y aller, c'est votre question, on peut vous orienter, etc. Mais nous, dans les formations, on va travailler la compétence. On va pas aller creuser que peut-être des fonctionnements émotionnels ont été conditionnés par, etc. Vous voyez? Ça, après, on le fait en accompagnement individuel, on l'oriente, on peut le faire ailleurs. Mais nous, on garantit vraiment ça. Et du coup, les personnes en entreprise sont vraiment ravies de s'engager parce qu'on les protège, entre guillemets. Parce que c'est compliqué d'être dans un groupe où on a des collègues, on travaille sur le même site, on se recroise. Donc du coup, voilà, c'est aussi là où nous, on a mis notre bienveillance, je ne sais pas comment vraiment dire, c'est pas une barrière parce que c'est plutôt un levier, mais on protège cet espace-là. Voilà. On ne va pas aller chercher, si on le fait en entretien individuel parce qu'on touche et les personnes se livrent énormément, on a ce temps individuel. En formation, s'ils veulent y aller, ils y vont, mais on pousse pas. C'est pour ça on propose des temps aussi individuels après, en disant qu'est-ce qui a bougé? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Ça fait peut-être écho à des vécus et on crée l'espace d'en parler. Mais en entreprise avec des collègues, voilà. Pour nous, on travaille vraiment la compétence et pas ce qui est en dessous, la disposition. La disposition affective, voilà, nous, on la travaille plutôt vraiment en accompagnement individuel.
Et pour parler de disposition, est-ce que le quotient émotionnel, c'est quelque chose qu'il faut débarrasser de ses oripeaux pour exprimer et qui est toujours là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on construit Est-ce que on est égaux face à notre intelligence émotionnelle?
Alors, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est pour nous vraiment l'intelligence de l'espoir, parce que c'est quelque chose qu'on peut développer. Quelqu'un qui est vraiment prêt au développement, questionnement nécessaire partout. J'ai accompagné comme ça une personne et on est allé sur compétents experts sur tous les domaines. Donc, on l'a bougé en 10 séances de coaching qu'on avait bien étalé 6 mois. On a vraiment bougé, test avant, test après, on avait vraiment bougé. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez, si vous voulez. Par contre, ça ne s'apprend pas dans les livres. Donc, nous, quand on fait de l'accompagnement, c'est extrêmement actif. C'est, voilà, vous avez à faire des exercices entre les séances, à aller tester. Tiens, aujourd'hui, je vais déclencher de la fierté chez un collègue. OK, comment je m'y prends? OK, tiens, ça a marché, pas marché. OK, je teste d'autres stratégies. Donc, on est vraiment dans le concret à travailler là-dessus. Et donc, ça marche. Et à la différence de l'intelligence plutôt analytique, à un moment, nos capacités de mémorisation, de concentration, etc., ça baisse. On est en plein déclin à partir de 30 ans. Voilà. Et donc, intelligence émotionnelle, ça croît. Donc ça, c'est vraiment la première partie de question. Après, la deuxième partie de votre question, c'est est-ce qu'on est tous égaux? Moi, j'ai envie de vous répondre non, on n'est pas du tout tous égaux parce que effectivement, ça dépend d'où j'ai grandi. Si j'ai grandi avec des modèles de personnes qui accueillent les émotions, qui les régulent avec flexibilité et finesse, qui vivent des multiples émotions et en prennent la responsabilité, c'est pas pareil que dans un environnement familial où c'était interdit de parler d'émotions. Où la seule émotion qui existait, c'est la colère. Il y a des familles qui fonctionnent par ça. Donc, c'est pas pareil. On a aussi des facteurs génétiques aujourd'hui. On a pu identifier, par exemple, que il y a des choses qui font que vous êtes beaucoup plus sensible à capter tous les éléments de danger dans votre environnement. Il y a une sorte d'hyperfonctionnement de l'amygdale, une hypersensibilité. Par contre, si vous avez grandi dans l'environnement où vous avez eu plein de stratégies et un environnement émotionnellement intelligent, ben en fait, ça ne va pas vraiment s'exprimer. Vous voyez? Alors que si vous grandissez dans un environnement où il n'y a pas eu ça, ça va être un facteur quelque part un peu handicapant. Donc du coup, voilà, ça se développe. Il y a des différences interindividuelles, mais ce n'est pas une fatalité. Voilà, c'est pas parce que vous êtes là aujourd'hui que vous pouvez pas être expert demain. C'est pas parce que vous gérez pas la colère aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous pouvez pas exprimer votre fierté, parce que pour vous c'est une émotion qui se touche pas, c'est de l'ordre du péché. Il y a des gens où la fierté, ils se coupent complètement de cette émotion. Ça veut pas dire que demain vous pouvez pas les apprivoiser.
Je trouve que il y a une danse dans tout ce sujet qui est compliqué entre, on a aussi une vision romantique des émotions, et le fait de faire des exercices, de s'entraîner, même d'aller jusqu'à ce qu'on pourrait percevoir ou sentir comme une manipulation de nos propres émotions, vous voyez, de plus être dans le lâcher prise, l'émotion elle a aussi cet intérêt de nous embarquer. Voilà, comment vous voyez cette danse dans ce côté hyper scientifique, de tout décortiquer, et le fait d'être dans la vie et les émotions comme un volcan aussi dans nos vies. Voilà, comment vous regardez ça?
Alors, c'est une question que j'ai souvent qu'on me pose, et en fait, ce que je réponds, c'est si votre spontanéité émotionnelle vous sert, mais changez pas. Après, nombre de situations où elle vous dessert, d'ailleurs tant sur les plaisantes que les déplaisantes, moi j'ai des personnes qui me disent « Ah, j'ai pas exprimé la fierté qu'on a bossé ensemble, j'ai du mal à exprimer la joie que j'ai de passer avec cette personne à travailler. » Parce que je me dis « Mais elle va se dire que je la drague, que c'est pas… » Voilà, et tout d'un coup, on voit qu'il y a tout un tas de freins et du coup, on n'exprime pas ces émotions qui nourrissent la relation. Si je dis pas à quelqu'un, écoute, bon, là, j'ai passé un super moment avec toi, c'était super, l'autre, en fait, je rate une occasion de nourrir notre relation. Autre exemple, si j'ai plein de gens pour qui la colère, c'est du 6 sur 7, hein, ça n'existe pas à deux, en fait, hein, c'est waouh. Et en fait, du coup, si je suis en colère d'après un ami et je lui exprime à 6 sur 7, bah, l'impact sur la relation peut être quand même un peu difficile. Alors que si je l'exprime à 3, en mettant quand même un peu d'intensité, mais en expliquant mon déclencheur, en expliquant mon besoin, ce que ça me fait et ce que j'ai besoin qui change. Et je reste connectée à l'intérêt pour dire bah, comment ça peut faire évoluer et grandir notre relation. Bah, finalement, est-ce que je ne sers pas davantage mon objectif de maintenir et de continuer à développer notre relation? Donc, voilà, pour moi, il y a ce curseur-là. Si les émotions vous servent, voilà, vous êtes à un mariage, vous avez énormément de joie, exprimez-la. Si cette joie commence à être tellement envahissante que vous voulez la place à la mariée, ça devient compliqué. Voilà, moi, c'est ça.
Ok, donc en fait, c'est donner le bon cadre aux émotions, en fin de compte, pas seulement pour les maîtriser ou les diagnostiquer et poser une tactique, mais aussi pour les laisser s'exprimer telles qu'elles devraient en avoir la liberté, là où on met des freins, justement.
Complètement, complètement. Et je vais juste vous donner un exemple parce que c'est parfois très terrible. J'ai accompagné un dirigeant. Et en fait, on a travaillé sur la colère et je lui dis, mais comment ça s'exprime chez vous? Et il me dit, bah, je souris. Bah, vous voyez, mais l'autre ne comprend pas du tout le message qui lui a marché sur le pied. Voilà. Et donc, c'est oui, à des moments, il faut même libérer l'expression parce qu'on a parfois vécu des choses qui ont bridé, qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc, c'est dans les deux sens. Parfois, il faut apprendre à les modérer, à les augmenter. Et donc, du coup, ça va plutôt servir notre spontanéité, en fait.
Ah, oh, ça fait du bien d'entendre ça, servir notre spontanéité. Parfait. On arrive au bout de cette interview. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé qui vous semble important ?
Oui, peut-être. Parce que pour moi, le plus important quand on se lance sur un travail d'émotion et sur commencer à chercher à apprivoiser consciemment nos émotions, c'est en fait de faire ça avec beaucoup de bienveillance envers soi-même. Parce que parfois, on se rend compte, on se dit, mais ah ouais, là, je suis vraiment nulle en termes de gestion des émotions. Et c'est dire, mais attends, c'est super, tu t'en rends compte. Et en fait, je crois pour travailler sur ces compétences émotionnelles, il faut vraiment avoir beaucoup d'indulgence et de bienveillance envers soi-même. Quand on cherche à se dire, tiens, aujourd'hui, je veux déclencher de la fierté chez un ami. Et peut-être, en fait, on se trompe et le truc qu'on va chercher, ça va activer de la tristesse. J'ai été un cas comme ça où il disait, alors c'est super ce projet que tu as mené de A à Z, que tu as mené jusqu'au bout. Et en fait, on voyait en face la personne qui devenait triste parce que le projet était fini. Donc parfois, on se dit, je veux activer de la fierté, à la sortie, j'ai de la tristesse. Zut alors. Mais ce n'est pas grave. C'est j'ai tenté et je viens de faire une énorme observation. C'est effectivement, tiens, là peut-être, ça peut induire une autre émotion. Comment m'y prendre pour être plus sûre de sortir à l'arrivée de la fierté? Ben, je peux me dire, est-ce que tu peux me raconter une chose que tu as réussi aujourd'hui? Ah ouais. Vous voyez? Et donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là, c'est oser faire avec le monde émotionnel, oser s'entraîner et avoir cette bienveillance que parfois, ben, en fait, ben, on voulait faire comme ça et ça n'était pas super optimal. Et essayer de déjà se féliciter parce qu'on a essayé. Et du coup, apprendre de peut-être de cette situation pour voir ce qu'on peut faire différemment. Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment important.
Eh bien, nous allons enchaîner avec le questionnaire. Avec la toute première question qui est, j'aimerais que vous me racontiez une histoire de quelque chose que vous avez peut-être vécu comme un échec, mais qui finalement vous a beaucoup appris.
J'avais une personne avec qui on travaillait vraiment beaucoup et on était moi une de mes émotions les plus compliquées à gérer c'était l'enthousiasme et la joie et j'étais pas du tout consciente que ça pouvait me baisser la vigilance et me conduire à un surinvestissement et que j'allais pas voir que l'autre était peut-être moins investi et donc du coup j'ai vraiment un exemple en tête où pendant encore voilà 2 ans à mes corps et âme. Je me suis investie avec une personne, on a vraiment énormément bossé, etc. Et du coup, voilà, je ne me suis pas affirmée Mais voilà, je me suis lancée là-dedans et ça m'a appris que vraiment les fondations de l'affirmation, c'est quelque chose qui se pose dès le début. Voilà. Et c'est qu'il ne faut pas avoir peur que ça trouble la relation ou que ça affecte négativement la relation. Mais en fait, plus qu'on est clair sur le cadre, plus ça nourrit la relation. Alors moi, j'avais plutôt la peur que ça crée des couacs dans la relation. Alors que si on est affirmé et on crée du cadre de collaboration, ben en fait, moi j'ai appris vraiment ça. Ça nourrit la relation. Et donc là, pour moi, il y a l'apprentissage des vigilances de la joie et de l'enthousiasme. Et puis le fait de poser du cadre qui nourrit la relation, ce qui était pour moi pas du tout clair avant cette expérience, qui était du coup pour moi fort nourricier. Je sais pas si j'ai répondu à peu près si
Complètement.
c'est ça.
D'ailleurs, je me reconnais complètement. Je voyais une situation personnelle. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à être passé par là de ça, de pas oser mettre du cadre parce qu'on a peur, tout simplement.
Oui, c'est ça. On a peur.
Deuxième question. Y a-t-il une technique ou un outil qui vous a particulièrement fait avancer, pareil, quand vous l'avez découvert, que ce soit un outil dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous avez dit, ça m'a vraiment fait progresser.
Oui, alors autre que l'intelligence émotionnelle, parce que c'est un truc qui m'a vraiment fait progresser, mais c'est le modèle SPA. Alors j'aime beaucoup, c'est Tal Ben Shahar, et donc c'est pas le bain à bulles, mais c'est le modèle SPA, sens, plaisir, atout. Et je l'ai découvert il y a quelques années. Et en fait, c'est de passer les activités qu'on fait, en fait, au scribble sur est-ce qu'elles font sens? Est-ce qu'elle me procure du plaisir et est-ce qu'elle développe mes atouts, mes talents? Et en fait, ça permet de faire un indice hein, par activité qu'on a dans notre semaine, dans notre mois. Et du coup, il y a une colonne à ajouter, c'est combien de temps j'y passe. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a parfois des activités qui nourrissent peu mon spa, donc qui sont vraiment des ingrédients du bonheur hein, et que je passais énormément de temps. Et que finalement, j'avais aussi des activités qui étaient, mais en indice, ils étaient, waouh, ils éclataient tous les scores. Et en fait, je passais une demi-heure par mois. Et du coup, en fait, c'est un outil extrêmement concret qui m'a permis, du coup, de bouger mon agenda. De dire, en fait, j'ai fait cette analyse sur mes activités et ensuite, j'ai mis une colonne. Est-ce qu'il faut que je fasse pour y passer plus de temps ou est-ce qu'il faut que je réduise le temps que j'y passe? Et après, j'ai fait la colonne plan d'action. Et du coup, ça a été notamment voilà, les éléments. Moi, j'aime la recherche, je passais trop peu de temps. J'aime le coaching individuel, mais vu que je faisais quasi beaucoup, beaucoup de formations, ben, en fait, j'étais tout le temps en déplacement, j'avais peu de coaching. Et donc, ça m'a vraiment permis de bouger mes activités, mon curseur. Je travaillais quasiment exclusivement seule, parce qu'en tant qu'indépendante, bah, c'est quand même un de nos principaux problèmes. Et en fait, bah, j'ai intégré une équipe aujourd'hui, où à temps partiel, je suis dans une équipe de recherche, de réflexion, et je travaille avec un réseau d'experts très, très souvent. Donc du coup, je voyais comme ça ce que j'aimais vraiment, je voyais le peu de temps que je passais, donc je cherchais à mettre plus de temps là-dedans. Et puis, je passais énormément de temps voilà, les déplacements TGV, tout un tas de choses où j'avais énormément de temps. Je dis, bah, comment je réduis ça? Et du coup, au fur et à mesure, je me suis approchée aujourd'hui à avoir à peu près 80% de spa, d'activités spa dans la journée. Et c'est mon curseur. Voilà, j'essaie d'avoir 80% d'activités qui nourrissent mon bonheur. Donc, ces trois éléments-là.
Troisième question, quelle est selon vous la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Alors, ce qui me vient vraiment comme ça, j'aurais dit la curiosité. Voilà, c'est la curiosité pour l'autre, la curiosité pour ce qu'on fait. Ça va engager la capacité à enthousiasmer, à comprendre les problèmes, à désamorcer les conflits, etc. Donc pour moi, c'est vraiment, si je devrais mettre, c'est cette capacité à s'émerveiller, à être curieux, à poser des questions, à chercher à comprendre. Et à pas aller sur ce terrain du j'ai vu, je connais, bon, voilà. C'est de rester connecté à ça. ce pétillement dans les yeux, ce côté-là qui, pour moi, vraiment, c'est après on peut déplacer beaucoup de choses, faire bouger beaucoup de choses.
Troisième question, non, quatrième d'ailleurs. Donc quatrième question. Y a-t-il un livre que vous pourriez nous conseiller à la lecture?
Alors, un livre qu'on peut conseiller à la lecture. Alors, il y a mon collègue Christophe qui a écrit Que Génération. Voilà, on voudra bien, ça fait un moment, j'ai aussi écrit un chapitre dedans. On voudra peut-être faire une nouvelle version. Mais voilà, là, il y a vraiment pas mal de fondements. Il y a aussi sur la peur, contre nos peurs, changeons d'intelligence. Pour ceux qui veulent creuser un peu plus, c'est aussi Moira Mikola-Jack, Dunod, les compétences émotionnelles. Donc là, c'est écrit un peu, voilà, c'est un peu technique, mais c'est très accessible, très clair. Voilà, je peux vraiment le recommander. Et puis, oui.
Vous vous arrêtez plus.
Voilà. Bon, mais voilà, c'est les lectures. En tous les cas, d'aller sur les modèles compétences. Voilà, c'est ça peut-être qui sont des modèles qui sont plus, à mon avis, plus opérationnels, voilà, plus concrets.
D'accord. Et on va finir avec une citation, peut-être une citation qui vous inspire.
Alors, une citation qui m'inspire, c'est que chaque difficulté est une opportunité d'apprentissage et de développement. Et c'est, si je me trompe, c'est Einstein qui disait ça.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup parce que c'est toujours intéressant d'explorer comme ça un outil. Et vous avez, je trouve que vous êtes très généreuse dans tous les détails que vous nous avez donnés. Vers quoi vous avez envie d'aller? Alors avec cet outil ou plus largement, vous avez peut-être d'autres projets. Quels sont vos rêves?
Mes rêves, c'est quelque part de créer à un moment une école de l'émotion. École au sens large pour enfants, pour adultes, pour entreprises et pour particuliers, parce que je trouve que c'est vraiment, c'est pas joli le mot que je vais dire, mais je trouve que c'est une trou dans la raquette terrible. C'est qu'on forme des personnes, mais on ne forme pas à l'émotion. Et du coup, voilà, on a tellement de personnes, je travaille aussi sur le mal-être, et on a tellement de personnes qui, du coup, les émotions, ils les bloquent dans leur épanouissement et leur bien-être. Et aller vers ce côté que l'émotion est un guide, pour moi, c'est vraiment, je souhaite le diffuser au plus grand nombre, avec des clés d'apprivoiser, voilà, de faire vraiment des alliés des émotions. Je suis convaincue que toute émotion est bonne, mais ça dépend comment on s'y prend. Voilà. Et mon rêve, ce serait ça, de créer des écoles. Voilà, on cherche là, 2019, c'est peut-être l'année de l'international. Voilà, on est en train de voir, de créer des versions, voilà, des petits avec le QE Pro et d'aller à l'international. Donc, peut-être on s'y approchera un peu.
Donc, je mettrai en note, accrochée à ce podcast sur iTunes, sur mon blog Moodstep et sur SoundCloud, aussi votre site internet pour que les gens puissent vous retrouver facilement. Et peut-être qu'un moyen aussi facile, en tout cas moi c'est comme ça que je vous ai contacté, c'est par LinkedIn.
Oui.
Merci beaucoup. Merci, et puis je vous souhaite, je vous souhaite, allons-y, j'habite une ville de 2700 habitants, il y aura peut-être une école émotionnelle, ou bien que ce soit intégré aussi au parcours général de tout le monde.
Ce serait vraiment top, ouais, je trouve.
On va rêver tout fort, allons-y.
Oui, c'est bien, allons dans la pratique, dans l'action.
Merci beaucoup.
Merci, c'était vraiment. Merci pour vos questions et c'était un très bel moment d'échange. Merci.
Et voilà un nouvel épisode qui s'achève. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à ceux qui ont répondu à mon petit coup de calgon la semaine dernière. Je suis passée par une phase et je suis toujours dans une phase où tout casse autour de moi. Donc je n'ai plus de site internet pour le Talentoscope. OVH a mon nom de domaine en otage. J'ai cassé mon appareil photo, mon objectif. J'ai pu accès à plein de sites sur internet via mon ordinateur. C'est la débandade. Et donc je me sentais abandonnée de tous. Et en fin de compte, je me rends compte que je m'en fous d'avoir des notes sur iTunes ou des... C'est pas ça qui est important pour moi, mais ce que ça m'a montré, c'est que ceux qui ont répondu à cet appel, Ils écoutent, alors je sais où ils écoutent le podcast, que ce sont parfois des gens qui n'ont rien à voir avec le monde de l'entreprise, comme des professeurs ou des médecins. Et en fin de compte, c'est ça que j'ai vraiment envie de savoir. J'ai vraiment envie de savoir qui écoute, qui vous êtes. Et ça m'a fait pas mal de bien, même si je pense que la forme n'y était pas vraiment. Et pour ça, je m'en excuse. Donc, j'ai fait le point sur mes motivations à faire ce podcast. Et elles sont nombreuses. C'est pour moi toujours un outil d'apprentissage, d'exploration, de curiosité. Et si je l'avais pas dans ma vie, peut-être que ce serait moins riche. Donc, je ne sais pas pourquoi j'attendais après l'approbation ou la reconnaissance, puisque de toute façon, j'ai des raisons bien plus profondes et personnelles de faire ce podcast. Donc merci à tous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.